mécanique du journalisme.
Cahuzac, LuxLeaks, Fillon, Benalla. Certaines enquêtes ont révélé des affaires d'État et déstabilisé le pouvoir.
Cette crise sans précédent, plus au sommet de l'État.
Des hommes politiques ont chuté, des lois ont changé, des journalistes ont révélé ce qui devait à tout prix être dissimulé.
Le président est en garde à vue depuis hier matin.
Comment travaille ceux qui cherchent ?
À son domicile, il est visé.
Comment trouve-t-il l'information ? Comment la vérifie-t-il ? Comment protège-t-il leurs sources ? Mécanique du journalisme, saison 4. L'affaire Fillon. Une enquête d'Isabelle Barré, Hervé Liffrand et Christophe Nobili, journalistes au Canard Enchaîné, racontée par Isabelle Barré et Hervé Liffrand.
Hervé Liffrand, donc journaliste au Canard Enchaîné depuis, on va dire, quelques années.
Isabelle Barré, je suis journaliste au Canard Enchaîné depuis maintenant 14 ans.
François Fillon, on connaissait. Au Canard, on connaissait. Parce que, comme on dit, c'est pas un père drôle de l'année. Donc, il a quand même une longue carrière politique derrière lui. Et on s'était intéressé à lui, tout spécialement, quand il était à Matignon, donc entre 2007 et 2012, où il était Premier ministre. Et, à l'époque, il jouait, disons, la carte du... quelque part de l'anti-bling-bling, l'anti-Sarko. Sarkozy avait été accusé d'être très bling-bling. Il avait fêté son élection en 2007 au Fouquet's, sur les Champs-Élysées, avec le gratin, etc. Fillon, lui, il l'a joué très modeste. Disons qu'il la ramenait pas, qu'il était... Voilà, il laissait l'autre prendre la lumière.
Le 17 mai 2007, François Fillon est nommé Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Après la mise en scène sarkozyste du Fouquet's, François Fillon choisit, lui, la sobriété.
C'est à pied et sous une pluie fine que François Fillon arrive à Matignon. Il est à peine plus de 11 heures. Juste derrière lui, son épouse Pénélope.
On s'est aperçu qu'à Matignon, il avait agrandi l'appartement de fonction du Premier ministre, qu'il trouvait un peu trop à l'étroit, donc il l'avait agrandi, et surtout il avait refusé de le reconnaître.
On avait aussi raconté qu'il avait eu des vacances payées en Toscane par le patron de Ferrari, ou qu'il avait utilisé le jet de Moubarak pour des vacances en Égypte. Enfin, plusieurs choses qui nous indiquaient que, sous des dehors très austères, pas dépensiers, etc., au contraire, peut-être, voilà, c'est quelqu'un qui aimait bien les montres, les voitures de course.
Le 16 mai 2012, François Fillon quitte Matignon.
François Fillon qui serre deux dernières mains, dernière poignée de main avec le personnel de Matignon. Son épouse également qui dit au revoir. On le rappelle, ils ont passé 5 ans tout le quinquennat à Matignon et les voilà raccompagnés par les époux héros sur le perron de Matignon.
En 2012, quand il quitte Matignon, très vite, 3 semaines plus tard, il crée une société de conseil. Et à l'époque, bon, c'est légal, évidemment, il n'est pas le seul à le faire. D'autres ministres de Fillon font la même chose. Luc Châtel, Nadine Morano crée sa petite boîte de com. Enfin, c'était la mode, apparemment. Et je me souviens de m'être dit que c'était quand même assez incroyable qu'on puisse, en France, comme ça, 3 semaines après avoir quitté Matignon, créer une boîte de conseil qui va faire du conseil en affaires publiques, etc., avec tout le mélange des genres qu'on peut imaginer derrière. À l'époque, on s'y était un peu intéressé. On n'avait pas encore sorti grand-chose, je crois, parce que comme c'était tout nouveau, il n'y avait pas encore les clients, etc., mais on l'avait relevé.
Et on s'aperçoit aussi que François Fillon a créé cette boîte en juin 2012, juste avant les élections législatives. Parce que je vous rappelle qu'il était Premier ministre, après la gauche arrive, et il se présente aux législatives. Il abandonne d'ailleurs au passage à Sartre parce que son siège était un peu en danger. Il préfère aller dans le 7e arrondissement de Paris, qui est une circonscription en or pour la droite. Il se fait élire là-bas, mais avant de se faire élire, il crée sa société parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de la créer une fois qu'il est député.
François Fillon avait quitté Matignon en 2012. Il était redevenu député et il était un petit peu sorti des radars. Voilà, il est resté un personnage important de premier plan, mais il y avait beaucoup moins d'actualité autour de lui. Et quand il arrive 20 novembre, largement en tête des primaires, c'est un peu une surprise. Tout indique qu'il va remporter la primaire la semaine suivante, tellement il a d'avance sur Alain Juppé.
27 novembre 2016, François Fillon remporte largement la primaire de la droite avec plus de 66% des suffrages.
La victoire me revient. Et c'est une victoire de fond bâtie sur des convictions. Ma démarche a été comprise. La France veut la vérité et la France veut des actes.
L'affaire Fillon n'est pas partie d'une information, d'une source qui nous aurait donné quelque chose. Elle est partie d'une idée, ou même d'un impératif, qui est qu'à partir du moment où il remporte les primaires de la droite, il va falloir un peu refaire ce qu'on a fait pour tous les candidats à la présidentielle, c'est-à-dire se réintéresser à la personne, à son patrimoine notamment, à son train de vie, à tout ce qu'on aurait pu oublier de lui ou ne pas voir ces dernières années. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir un peu refaire le tour du bonhomme, si je puis dire. Les premières choses qui me viennent, moi, personnellement, c'est de vite aller rechercher les comptes de la société de conseil. Et là, énorme surprise, cette société a énormément prospéré. Elle lui a déjà rapporté 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et encore, on n'a pas les comptes de 2016 à l'époque. Donc c'est une activité qui lui a rapporté beaucoup plus depuis 3-4 ans que son mandat de député, sans qu'il n'en parle jamais. À aucun moment pendant sa campagne des primaires, sans qu'on connaisse le nom de ses clients, avec une opacité la plus totale finalement, alors qu'il fait campagne sur « moi président, je n'aurai jamais aucune casserole, le mélange des genres, ce n'est pas pour moi, la République irréprochable », enfin bon. Alors effectivement, cette activité de consultant, elle n'est pas illégale, mais elle interroge beaucoup sur les conflits d'intérêts possibles derrière. Donc on sort ce premier papier sur cette société de conseil.
Et le 30 novembre 2016, on sort un article qui s'intitule « Le député Fillon est un homme d'affaires, 17 600 euros par mois ». Donc Isabelle Barré raconte dans cet article comment il a encaissé plus de 750 000 euros de revenus en 3 ans. Et il s'est versé 624 000 euros de salaire net entre 2012 et 2015, plus 133 000 euros de bénéfices. Tout ça s'ajoutant bien évidemment à son traitement de député de 5 357 euros à l'époque. Et puis, on s'était gossé à une époque de Sarko et ses montres très chères. Il avait lui aussi une véritable passion pour les montres chères, ce qui est son droit aussi le plus strict. Mais toujours, je le dis rien, je le cache, etc. Mais bon, on s'était aperçu que c'était un peu la même chose que Sarkozy. Donc voilà, donc on raconte ça. C'était quand même des choses intéressantes pour éclairer nos lecteurs sur celui qui rêvait d'être futur président de la République.
S'intéresse très vite à sa déclaration d'intérêt, qui, elle, est publique, et à sa déclaration de patrimoine, qui, elle, n'est pas publique, puisqu'il est député. Donc elles sont consultables à la préfecture, et consulter une déclaration de patrimoine, c'est à la fois très simple, et en même temps, ça met un peu les gens en émoi sur place, parce qu'on a le droit de la consulter, mais on n'a le droit de prendre aucune note, on n'a pas le droit d'enregistrer quoi que ce soit, de photographier quoi que ce soit. On doit se rappeler de tout et on n'a pas le droit non plus d'en faire état. C'est-à-dire ça nous donne des informations qu'on pourra utiliser plus tard. On pourra se rendre compte que, tiens, c'est marrant, parce qu'on a tout sur ces déclarations de patrimoine. On a le niveau des comptes bancaires, on sait combien les personnes possèdent d'argent, de patrimoine, de parts de sociétés immobilières. On a beaucoup de choses. Donc ça peut être intéressant pour tirer des fils derrière. Mais, encore une fois, on n'a pas le droit de prendre de notes. Et je me souviens que l'employé de la préfecture qui était là dans le bureau transpirait énormément. Et j'ai été un peu taquine parce que je lui ai dit « Bon, d'accord, donc on n'a pas le droit de prendre de notes, mais à partir de quel moment, quand je sors du bureau, je peux commencer à écrire très vite dans mon carnet ce que j'ai regardé ?» Et donc je lui ai dit « Regardez là, je fais 3 pas en arrière, je me reculais du bureau, j'arrive à l'ascenseur. » Là, il était là, il me disait « Au revoir avant que je prenne l'ascenseur. » Je dis « Là, je peux. » Et là, je sors mon carnet. Bon. Voilà, il rigolait un peu, mais il riait jaune quand même. C'était assez comique. Mais dans cette déclaration de patrimoine, il y avait beaucoup d'informations. qui nous ont mis sur des mauvaises pistes pendant plusieurs jours, voire semaines d'ailleurs. On ne comprenait pas certaines choses, notamment sur des parts immobilières, etc. On s'est demandé si François Fillon n'avait pas fait un petit arrangement pour une histoire d'impôt sur la fortune, etc. Donc on l'a interrogé là-dessus. Encore une fois, on ne savait vraiment pas du tout ce qu'on cherchait. On regardait tous azimuts. Voilà, donc on examine ses déclarations de patrimoine. On se pose plusieurs questions en la regardant. François Fillon nous répond, et effectivement, il n'y avait pas de loup. Il n'y avait rien spécifiquement à tirer de ça, à part ce qu'on a fait tout de même, c'est-à-dire revenir sur son château de la Sarthe pour bien décrire l'ampleur du château, qui n'était pas une maison ou un petit manoir, comme il avait pu le dire parfois.
Il avait déclaré un jour à la télévision : « Je suis propriétaire d'une maison dans la Sarthe que j'ai achetée 440 000 euros il y a une vingtaine d'années. » Donc c'est ce qu'il avait déclaré en 2013 sur France 2. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas une maison comme un pavillon de banlieue. C'est un château, et un château en partie du XVe siècle, avec une surface quand même assez importante. Il y avait 3000 mètres carrés de bâtiment. Ce n'est pas franchement un petit pavillon, et 14 hectares de terre. Et pour revenir en fin de semaine dans son manoir, il ne prenait pas le train, il ne prenait pas la voiture, il prenait surtout l'avion.
Il prenait un Falcon pratiquement tous les vendredis pour aller à Angers, d'où l'attendait une voiture blindée quand il était Premier ministre pour l'emmener jusque dans son château de Beaussais, ce qui veut dire que ça coûtait très cher toutes les semaines quand même. Voilà. Et on a continué à tirer les fils.
C'était toujours la même logique, donc je minimise mes biens, je ne dis pas que je possède, tout ça. C'était une petite histoire, mais qui continuait à souligner un peu qui était le personnage. Bon. Et puis là-dessus, on s'est dit, il faut quand même qu'on continue à travailler, parce que ça a l'air d'être un bon client. Et puis on a su que les revenus du couple, il y avait un problème, ça ne cadrait pas avec les salaires, même avec ce qui touchait avec Joseph Conseil. Bon. Donc il y avait d'autres sources de revenus. Alors c'était quoi? Ça pouvait être des livres, des choses, etc. Donc on a cherché pour essayer de comprendre. Et puis on ne s'attendait pas à ça, mais on a trouvé ce qu'on a trouvé. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et on interroge François Fillon également sur ses revenus. Il y a un espèce de delta entre ses revenus officiels de députés, de consultants et son train de vie. Et voilà, donc on l'interroge, on dit, bon, voilà, est-ce que vous pouvez vraiment nous détailler l'ensemble de vos revenus pour ces années-là? On est sur 2012 et 2013. Et il nous dit, oui, j'ai mes revenus de député, j'ai mes revenus de consultant, mais j'ai aussi touché un avaloir pour un livre. Et on s'était renseigné pour le secteur de l'édition pour avoir le montant de cet avaloir, qui était très important, c'était 50 000 euros. Et puis il y a les revenus de Pénélope Fillon, nous dit-il. Mais de la façon dont la question était formulée et dans sa réponse,
On ne parle pas de 150 ou de 300 euros, on parle de milliers ou voire de dizaines de milliers d'euros, même si lui ne nous le dit pas clairement, mais voilà, on parle d'un vrai revenu, d'un vrai emploi. Donc, à partir de là, on a décidé de chercher plus sérieusement quels étaient ses revenus, et donc on a tiré cette ficelle qui, au départ, n'était vraiment pas grand-chose. L'emploi de Pénélope, le premier indice, il est totalement public. Il est dans la déclaration d'intérêt, qui, elle, est en ligne. Dans cette déclaration d'intérêt, qui a été déposée quand M. Fillon était député début 2014, juste après la création de la Haute Autorité de la Transparence de la vie politique, qui obligeait les députés à remplir ces déclarations d'intérêt, donc en janvier 2014, il le fait. Je pense qu'à l'époque, on n'y a pas vraiment prêté attention, mais là, on regarde à nouveau, et donc on voit à la mention emploi de sa femme, revue des demandes. Alors, petite surprise, parce qu'on se disait, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle travaille, comment elle est, c'est rigolo, ça fera quelque chose à raconter sur Pénélope, sur lequel on n'a pas grand-chose à raconter. Donc, soit c'est juste marrant, soit il y a plus que ça, et... Le soupçon vient assez vite parce que la revue des demandes, elle appartient à Marc Ladrette de la Charrière, qui est un ami de François Fillon, qui est milliardaire. Donc, bon, ça vaut vraiment la peine de vérifier ce qu'elle y fait et pour quel salaire. Et là, c'est très simple. Le directeur de la revue des demandes, à l'époque, était Michel Crépu. Je regarde juste où il travaille actuellement. Voilà, je me rends compte qu'il travaille chez Gallimard. Je décroche mon téléphone, j'appelle chez Gallimard au standard... Je demande Michel Crépu, que je ne connais pas, hein, je ne l'ai jamais rencontré. Il est dans son bureau, il décroche. Et je lui dis, voilà, Isabelle Paré, Canard Enchaîné, voilà, on s'intéresse, on veut faire un portrait de Pénélope Fillon. On a vu qu'elle avait travaillé pour la Revue des Deux Mondes, est-ce que vous pouvez me raconter ce qu'elle y faisait, comment elle était, etc. Et là, il tombe un peu des nues, il me dit, Pénélope Fillon, mais... Ah bon, mais... Pourquoi vous me posez cette question ? Je dis, mais parce que c'est indiqué dans la déclaration d'intérêt de M. Fillon, il indique que sa femme travaillait en 2012 à la Revue des Deux Mondes. Il me dit, il est un peu gonflé quand même de dire ça. Oui, je me souviens, elle a fait peut-être une ou deux notes de lecture, mais franchement, de là à dire que c'est un emploi... Ah bon, mais est-ce que vous vous souvenez de ces notes, etc. Il me dit « Ah non, je ne me souviens pas très bien. » je me souviens en tout cas qu'elle les a faites sous un pseudo. Moi, je dis « Bon, mais quel pseudo ?» Alors, il ne se souvenait pas du pseudonyme. Mais voilà, il me dit juste « Écoutez, elle a fait une ou deux notes de lecture. Voilà, ça s'est arrêté là. Il répugnait à me le dire, mais enfin, je comprends entre les lignes que ce n'était pas formidable hein, comme résultat. Et voilà, que la collaboration s'est arrêtée là, mais qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à en dire. » Alors, je me dis « Bon. » Si c'est vraiment ça, si elle a juste fait deux notes de lecture, peut-être que François Fillon a mis ça dans sa déclaration d'intérêt pour être vraiment très pointilleux, ou faire plaisir à sa femme, ou être très pointilleux pour dire « Voilà, elle a touché deux petites piges en 2012, je n'ai rien oublié. » Michel Crépu ne se souvenait pas vraiment de la question de ses émoluments. Je lui avais sans doute posé la question, mais est-ce qu'elle a été payée ? Il me dit « Bon, vous savez, une note de lecture, c'est 150 euros, donc voilà, ça ne va pas chercher loin. » Alors, à partir de là, déjà, le fait de prendre quelqu'un par surprise comme ça, sauf s'il a fait l'acteur studio, qu'il était extrêmement bien préparé à la question, vous voyez, a priori, il répond de façon très spontanée, il n'a aucune raison de mentir, etc. En plus, il n'est plus salarié de la Revue des Deux Mondes, donc il n'est plus dans ce groupe, il a une totale liberté, il me dit ça très spontanément, a priori, il n'y a pas de problème. Sa réponse, elle me semble sans doute exacte. Donc... L'étape suivante, c'est de se dire, bon, alors, s'il y a eu que ça, si elle a fait juste deux notes de lecture, il faut les retrouver, parce que c'est marrant. Qu'est-ce qu'elle a écrit, comment, sur qui, sur quoi, est-ce que c'était sur des romans, je sais pas, des histoires d'amour, des trucs politiques, économiques, comment elle écrit, bon. Alors, il ne se rappelle pas du pseudonyme. Il me donne le numéro de quelqu'un qui bosse encore à la Revue des Deux Mondes. Il y a une secrétaire, enfin, ils sont deux ou trois dans cette revue. Je ne me souviens pas si je l'ai appelé tout de suite ou pas pour avoir le nom. J'ai peut-être attendu un petit peu. Et en tout cas, j'ai commencé à éplucher tous les exemplaires de la revue. Il n'y en a pas énormément parce que je crois que c'est un mensuel de mémoire. De 2012 et 2013 pour regarder tous les noms des auteurs. Et par élimination, il y avait un seul nom qui ne correspondait pas à quelqu'un d'existant, c'était Pauline Camille. Alors voilà, donc on a les deux notes de lecture. Je fais confirmer le pseudonyme de Pauline Camille, sans doute par la Revue des Deux Mondes. Généralement, on n'interroge pas tout de suite les gens. Voilà, on demande des confirmations un peu au dernier moment. On préfère enquêter tranquillement, mais pas trop de puce à l'oreille. Mais en tout cas, je me souviens avoir demandé confirmation du pseudonyme à la Revue des Deux Mondes et à la nouvelle directrice qui était Valérie Toragnan, qui a confirmé que c'était bien son pseudonyme. Ils pouvaient difficilement le cacher. Qu'est-ce qu'ils allaient dire ? Non, elle n'a jamais travaillé, donc non, c'était obligé de le dire. Donc, en tout cas, bon, on avait les deux notes de lecture.
Le problème, c'est que les notes de lecture, il n'y en avait quasiment aucune qui pouvait témoigner d'un vrai travail. Il y en a deux, je crois, vraiment très courtes. Pas de quoi justifier un salaire qui était quand même pas mal, puisque, comme on l'a dit dans nos révélations qui sont sorties le 25 janvier, la Revue des Deux Mondes, qu'on avait renommée dans le Canard la Revue des Deux Bifetons, lui avait donné un salaire de 5 000 euros brut par mois. Elle y a travaillé 20 mois et elle a touché 5 000 euros par mois. Donc ça faisait à peu près 100 000 euros de salaire brut.
À partir du moment où on sait que Pénélope Fillon a travaillé, si on peut dire, à la Revue des Mondes, qu'elle a des revenus, qu'elle a peut-être une vie qu'on ne connaît pas, que François Fillon a un train de vie supérieur à ce qu'on pouvait imaginer, qu'il a des revenus qu'on ne connaissait pas. À partir de là, de toute façon, on se dit qu'il faut absolument chercher partout, tous azimuts. Finalement, on croyait tout savoir de ce personnage, qui était censé être un simple député, encore une fois, austère, modeste, faisant campagne sur la probité, le non-mélange des genres, etc. Et finalement, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a le goût de l'argent, qui en gagne beaucoup. Sa femme également, visiblement, a des revenus qu'on ne connaissait pas, dont il ne parlait jamais. Donc, à partir de là, il faut absolument enquêter pour trouver plus... et s'intéresser aux revenus du couple Fillon.
Madame Fillon touche des salaires. Quel est le travail qu'elle a fait ? C'est bien sûr la première question, en se disant, bon, peut-être qu'elle a vraiment travaillé. On a cherché. Et la meilleure façon de chercher, c'était d'interroger tous les gens qui avaient pu rencontrer Madame Fillon dans l'exercice de son travail, attaché parlementaire de son mari.
Pénélope Fillon a commencé à travailler pour François Fillon dès 81. Dès qu'il était le député, il lui confie des rapports à faire. Et en 86, il lui signe un premier contrat de collaborateur. Il y a des interruptions quand il est ministre, mais bon, ça reprend en 98 de façon beaucoup plus persistante.
Jusqu'en 2002, elle est attachée parlementaire de son mari. Puis, son mari devenant ministre, elle est devenue attachée parlementaire du suppléant de son mari, M. Marc Joulot, qui a pris la succession et qui n'a pas eu le choix de l'embauche de son attaché parlementaire. C'était la demande expresse de François Fillon, ça a été Pénélope. Et Pénélope avait bien évidemment le plus beau salaire de tous les attachés parlementaires de Marc Joulot. C'est elle qui a eu le salaire maximum. Et donc ça a duré jusqu'en 2007. 2007-2012, ils sont à Matignon, là il n'y a pas d'emploi. Mais en 2012, il quitte Matignon. Madame va travailler à 5 000 euros par mois pour le milliardaire Marc Ladrin de la Charrière à la Revue des Deux Mondes. Et elle reprend un boulot d'attaché parlementaire auprès de son époux.
Donc sur toutes ces années, forcément, elle est censée avoir laissé des traces partout, tout le monde devrait être au courant, ils sont installés dans la Sarthe depuis des années, elle est connue comme le loup blanc, enfin, on aurait dû crouler sous les témoignages, les preuves, etc., et on n'a rien trouvé.
a passé des week-ends à chercher des numéros de téléphone, à appeler les gens chez eux, etc. Bon, que ça soit dans la Sarthe ou à Paris. Et tout le monde nous a dit, non, Mme Fillon, elle était là auprès de son mari comme une épouse d'élue, mais elle n'intervenait jamais sur les dossiers, elle n'intervenait jamais sur le travail de son mari. C'est tout juste, elle prenait on lui donnait une enveloppe pour son mari, elle prenait une enveloppe pour lui amener le courrier.
Quand on appelle quelqu'un comme Robin Somberg, qui a été une des assistantes parlementaires de François Fillon, elle répond très spontanément, enfin, elle me dit, écoutez, non, j'ai jamais entendu parler de cet emploi, et elle ne pense pas faire quelque chose de mal en nous répondant là-dessus. Elle est totalement sincère, elle dit, voilà, je ne connais pas cet emploi. Et c'est des réponses comme ça spontanées, on peut les avoir que si on appelle les gens avant d'avoir sorti le papier. Sinon, et avant d'avoir interrogé officiellement les personnes concernées, parce que sinon, c'est en bas de combat, fermer les écoutilles, plus personne ne répond, etc. Donc ça, il faut le faire. Il y a un ordre, si vous voulez, dans la progression. Il faut passer des coups de fil comme ça, par cercle concentrique. On se rapproche un peu du personnage principal, mais il ne faut pas le faire trop tôt. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des réponses spontanées, puisqu'ils n'ont pas été mis en garde, personne ne leur a dit, ne répondez surtout pas au canard enchaîné. La semaine suivante, c'était trop tard. Tous les confrères qui ont essayé de contacter ces mêmes anciens collaborateurs parlementaires n'ont jamais pu obtenir de réponse, forcément, puisqu'il y avait à partir de là, c'était enquête judiciaire, etc. Ils se sont refermés comme des huîtres. Au départ, voilà, on ne peut pas savoir. C'est juste très étonnant de découvrir cette femme discrète, censée s'occuper de ses enfants, qui répétait dans la presse qu'elle n'avait jamais travaillé. On découvre qu'en fait, elle a cumulé deux emplois en CDI à plein temps, en 2012 et 2013, l'un comme assistante parlementaire et l'autre comme conseillère littéraire à la Revue des Deux Mondes. Donc, en fait, elle bossait comme une acharnée. C'était de l'esclavage et personne ne le savait. Donc, il fallait quand même rétablir un peu la vérité et rendre honneur à tout ce travail trop longtemps caché. Et voilà, donc c'est vrai que quand on s'est penché sur la réalité de cet emploi, assez vite on s'est rendu compte qu'on ne trouverait pas grand-chose.
Au début, on lui envoie une lettre pour lui dire, voilà, on voudrait savoir un peu les choses, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de réponse.
Toi l'épouse modèle, le grillon du foyer, toi qui n'as point d'accroc dans ta robe de mariée, toi l'intraitable Pénélope, en suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne berces-tu jamais en tout bien tout honneur de jolies pensées interlopes, de jolies pensées interlopes. Derrière tes rideaux, dans ton juste milieu, en attendant le retour d'un Ulysse de banlieue, penché sur tes travaux de toile, les soirs de vague à l'âme et de mélancolie, n'as-tu jamais en rêve au ciel d'un autre lit compter de nouvelles étoiles, compter de nouvelles étoiles. N'as-tu jamais encore appelé de tes voeux l'amourette qui passe, qui vous prend aux cheveux, qui vous compte des bagatelles?
Lundi matin, 23 janvier, on interroge François Fillon alors de différentes façons. On envoie une lettre de mémoire, François Fillon, à son siège de campagne, par coursier, je crois. De même qu'on envoie un coursier au domicile des Fillon pour déposer une lettre pour Madame Fillon. Et par ailleurs, évidemment, on envoie des mails à la société de conseil Image7 qui assure la communication de François Fillon, à son équipe de campagne, etc. Mais on a doublé ça par des courriers. Et on n'obtient aucune réponse dans la journée. Donc on interroge Marc Ladrette de La Charrière ce jour-là. Je l'appelle au téléphone, il ne répond pas, j'envoie un texto. Il commence par complètement balayer les accusations, en disant « vos informations sont dénuées de tout fondement, elle n'a jamais travaillé pour nous », quelque chose comme ça. On se permet d'insister, on dit « écoutez, c'est étrange, ça ne correspond pas vraiment aux éléments dont nous disposons ». Et il répond mais très vite, je crois, même pas une heure plus tard, un nouveau SMS en disant « autant pour moi, j'avais zappé ». Effectivement, elle a bien travaillé pour nous à cette époque pour un travail de conseiller littéraire. C'est la première fois que ce mot apparaît, puisque elle n'était pas censée avoir un travail de conseiller littéraire, elle était juste censée avoir écrit deux notes de lecture. Donc, mais il nous l'écrit, nous le confirme, elle était conseiller littéraire, mais il avait zappé. François Fillon répond pas. En fait, on communiquait à l'époque exclusivement avec Myriam Lévy, qui travaillait pour Image 7, la société de communication d'Anne Méo, qui assurait la communication de François Fillon. Aucun commentaire, et encore une fois, c'est la première fois. Les autres fois, ils ont répondu sur la société de conseil, sur son château, sur ses montres. Enfin, on a posé plein de questions. Là, pas de réponse du tout. Silence radio. Je ne sais pas si François Fillon lui-même s'est complètement rendu compte de ce qui se passait, ou je sais pas trop. En tout cas, il y a eu visiblement aucune réponse de passé, directement, indirectement, même pas du off, rien. Ça commence plutôt dès le mardi après-midi, parce qu'en fait, le canard est imprimé le mardi après-midi. Et tous les mardis soirs à l'époque, il y a des coursiers qui viennent chercher le canard enchaîné au siège du canard rue Saint-Honoré, qui l'emmène dans tous les médias, les ministères, les etc. Donc ils l'ont très vite, vers 17h. Et donc en fait, l'info sort dès le mardi soir.
Et bizarrement, il prévient même pas son entourage. L'entourage est au courant de rien, ne sait pas. Si bien que le mardi soir, donc on est fin janvier, il tire la galette des rois au siège de campagne du candidat, personne ne sait. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? L'autre n'en a pas parlé. Il n'a pas parlé à son directeur de campagne, il n'y a que son attaché de presse qui est au courant.
Et voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
France Culture, 25 janvier 2017.
Un gros pavé dans sa mare. Un pavé lancé ce matin par le canard enchaîné. L'hebdo satirique épingle François Fillon et surtout son épouse Pénélope Fillon, embauchée comme attachée parlementaire et aussi donc à la Revue des Deux Mondes comme conseillère littéraire. Là aussi, on ne se souvient pas de son passage. Rien d'illégal, sauf si c'est un emploi fictif.
Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ferai pas de commentaires parce qu'il n'y a rien à commenter.
25 janvier 2017, première réaction de François Fillon.
Mais je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler ?
Votre femme a-t-elle accompli un travail à temps complet en contrepartie des salaires qu'elle a perçus comme assistante parlementaire ?
Oui, absolument.
26 janvier 2017, au lendemain de la parution du Canard, François Fillon réagit cette fois au journal de 20h.
Elle a corrigé mes discours. Elle a reçu d'innombrables personnes qui voulaient me voir et que je ne pouvais pas voir. Elle m'a représenté dans des manifestations, dans des associations. Elle me faisait la synthèse de la presse.
Il n'y a pas de traces des discours qu'elle aurait écrits, des démarches qu'elle aurait faites. Les seules choses qui vont produire, y compris au moment du procès, ça montre simplement qu'elle était l'épouse de son mari. On a les déclarations de Pénélope. Et on retrouve les déclarations de Pénélope dans The Telegraph, où elle dit « J'ai réalisé que mes enfants me connaissaient seulement comme mère, et donc elle regrettait de ne pas avoir eu une vie professionnelle. » Au journal de Sablé, elle avait lancé, toujours en 2007, « Je ne suis pas une militante. » Et vous avez le curé de Solesmes qui avait dit à propos d'elle « François Fillon a une femme en or, discrète, qui sait tenir son rang et élever ses enfants. » Après, on va découvrir de l'interview télévisée qu'elle donne à une chaîne anglaise, si je ne me trompe pas, où elle raconte qu'elle a beaucoup souffert de ne pas avoir de vie professionnelle. Elle aussi, elle est sa principale procureure.
Est-ce que vous vous êtes impliquée dans ses campagnes ou sa carrière politique ?
Oui, je l'ai fait.
Enfin, en plus des enfants.
Je l'ai toujours accompagnée dans ses campagnes électorales. les meetings, pour aider. Je faisais ce genre de choses, glisser des prospectus sous les portes. Parce que j'aime bien... J'aime bien me mettre au fond de la salle et écouter les commentaires que les gens font sur ce qu'ils disent. C'est quelque chose que je faisais quand il était maire de Sablé. J'allais dans les associations de personnes âgées, des choses comme ça. Mais rien de plus, rien. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication.
Donc madame a toujours eu des emplois à la réalité plus qu'incertaine, mais au salaire plus que conséquent, qui ont permis au couple, c'est un peu d'entretenir ses châteaux et de payer les ardoises, des toitures, etc.
On a publié ce qu'on a sur la revue, on a publié ce qu'on a sur ses salaires à l'Assemblée. Et c'est François Fillon lui-même qui, deux jours plus tard, en allant au JT de TF1, je crois, nous apprend.
Lorsque j'étais sénateur, il m'est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats, en raison de leurs compétences.
Alors, nous, on ne savait pas. Et donc, on s'est dit, tiens, qui que quoi dans où ? Et on a découvert d'abord qu'ils n'étaient pas avocats, ils étaient étudiants, d'une part, et que ce n'était pas des missions précises, il s'agissait d'emplois à plein temps, d'attachés parlementaires, quand leur père était sénateur, parce que leur père a également été sénateur en 2005, quand il n'est plus ministre du Travail, avant les élections législatives de 2007 et la présidentielle, il se réfugie au Sénat, et là il embauche ses enfants, sa fille Marie et son fils Charles, et les deux vont avoir droit à 84 000 euros pour leur prestation d'attaché parlementaire. Curieusement, ils ont refilé l'argent à leurs parents. Et l'explication de François Fillon, c'était qu'il remboursait. La fille remboursait les frais de son mariage. Généralement, c'est les parents qui payent. Et le fils remboursait ses études.
Merci François Fillon, parce que c'est vraiment... Il nous l'a porté sur un plateau. Comme on avait pris un peu d'avance, parce qu'on avait déjà bien fouiné avant, on a pu, pour la semaine suivante, donner des détails sur les dates, les emplois des enfants, sur ce qu'ils faisaient ou pas. Ça nous paraissait compliqué, parce qu'ils étaient étudiants et occupés par ailleurs. Donc sur leur salaire, etc. On a eu le temps de faire l'enquête pour la semaine suivante, mais c'était pas du tout prévu. Et après, d'ailleurs, ça s'épuise assez vite. On n'a pas sorti grand-chose ensuite. On n'a rien sous le coude, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'on a, on a bien fait le tour de la question, croit-on. On ne pense pas qu'il y a plus que ça, mais surtout, je pense qu'aucun journaliste ne garderait sous le coude une information que n'importe qui d'autre peut trouver en l'espace d'une semaine, parce que le Canard Enchaîné, à l'époque, n'a aucun site internet. On ne va pas prendre le risque de garder une information sous le coude pendant 7 jours pour se faire griller par des confrères. Donc ça, ce n'est pas possible. Je sais que l'équipe Fillon tout de suite a dit qu'on allait feuilletonner, qu'on voulait feuilletonner pendant toute la campagne, mais c'était pas le cas, et ce serait complètement stupide. On va pas prendre le risque, encore une fois, de se faire griller la politesse par des confrères qui vont faire leur travail très vite et trouver la même chose que nous. Il n'y a pas de raison, sinon on a trouvé, d'autres peuvent trouver. Il suffit juste de s'y intéresser. À partir du moment où on a appuyé sur la sonnette, tout le monde va le faire, toute la presse va se précipiter. C'est hors de question de garder quelque chose sous le coude.
Le 25 janvier 2017, suite aux révélations du Canard, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits.
La justice est saisie. Moi, j'ai confiance dans la justice. Je ne m'exprimerai plus sur aucune des questions qui me sont posées. Je me suis exprimé devant les juges hier, devant les policiers hier. J'étais d'ailleurs très soucieux d'être entendu très vite. Ils l'ont fait, je m'en félicite, je suis confiant, je suis serein, j'attends désormais la fin de cette enquête. Mais je veux quand même dire qu'à ma connaissance, dans l'histoire de la Ve République, cette situation ne s'est jamais produite. Jamais.
à moins de 3 mois d'une élection présidentielle, une opération d'une telle ampleur et aussi professionnelle n'a été montée pour essayer d'éliminer un candidat autrement que par la voie démocratique.
Évidemment, c'était totalement grotesque. Je veux dire, tous les hommes politiques, quand ils sont coincés, qu'ils ne savent plus quoi faire, ils disent « c'est un cabinet noir, on veut me nuire, c'est la concurrence, c'est mes adversaires, etc. » Et ça n'a convaincu personne et ça s'est retourné contre lui.
Il aurait pu y avoir quelqu'un qui nous apporte un dossier tout chaud un jour. Regardez ce que je vous apporte. Ah, formidable, écoutez, on l'aurait publié quand même. Voilà. Il se trouve que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc nous, on est hyper tranquille là-dessus. On sait qu'il ne pourra pas y avoir relecture de l'histoire en disant « voilà, tout ça a été un complot, c'est X ou Y qui a porté le dossier, c'était prévu de longue date. » Voilà, non, ça ne marchera pas. Donc à la fois, on est très à l'aise et en même temps, ça nous amuse justement parce qu'on sait qu'il va s'enferrer là-dedans. Il va jusqu'à dire « j'ai les noms, les dates, les heures ». Des gens qui sont censés nous avoir remis des choses. Donc nous, on piaffe, toutes les semaines, on attend qu'ils les révèlent jusqu'au procès. Il ne les a jamais révélés, donc je ne comprends pas cette déclaration. Mais ça nous amuse. Et en plus, à l'époque, il y a tout un complotisme qui se met aussi en branle sur Internet. Alors, on reçoit au Canard des mails. Dans les mails insultants ou vraiment pas contents, il y a des gens qui nous disent c'est bien beau tout ça, hein. Franchement, on sait que c'est Gaspard Ganzer, le conseiller de François Hollande, qui tel jour, à telle heure, a remis tel dossier au directeur du Canard Enchaîné. Alors on se dit, oh, formidable, écoutez, on n'était pas du tout au courant. Mais en plus, on comprend pas du tout la logique, c'est-à-dire que si c'était un complot, il faut qu'il y ait quelqu'un à un intérêt derrière. Donc François Fillon dit, c'est un complot. D'autres dans la sphère complotiste disent oui, donc ça vient de Hollande. Mais alors attendez, quel est l'intérêt de François Hollande puisqu'il n'est pas candidat? Ça tient jamais vraiment la route, mais bon, ça fait les esbroufs. Et puis voilà, François Fillon, de toute façon, on n'a pas vraiment de quoi se défendre. Donc voilà, il part là-dessus, sur cette idée de complot, et qu'il ne va pas céder, etc. Et contredisant tout ce qu'il a pu dire un mois plus tôt encore sur la morale en politique, puisque. Pendant toute sa campagne des primaires, jusqu'au dernier moment, jusque dans l'entre-deux-tours des primaires, donc fin novembre, il explique dans son débat face à Juppé que, pour diriger la France, il faut être irréprochable et que, oui, c'est bien malheureux, la présomption d'innocence, ça devrait être bien respecté, mais que c'est pas possible quand on est ministre. S'il y a une suspicion qui a entraîné une procédure judiciaire, on ne peut pas diriger un ministère, encore moins un pays. Voilà, donc... Et un mois plus tard, il a complètement changé d'avis.
Je vous rappelle qu'il avait fait quand même ce grand discours aussi à fin août 2016, à Sablé, sur Sarthe, dans son fief.
Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Être gaulliste, c'est une conception de l'exercice du pouvoir, et singulièrement de la fonction présidentielle. Notre Constitution ne fait pas du président de la République un PDG, et encore moins un sultan turc. Le président de la République ne devrait pas être un président de faits divers, prenant la parole à tort et à travers, usurpant la direction du gouvernement, multipliant les petites promesses démagogiques et occupant les rubriques mondaines.
Donc quand on dit comme ça qu'il faut être très clean, impeccable, qu'il ne faut rien avoir à se reprocher, il faut être à la hauteur de ce qu'on veut imposer aux autres quand même. C'est un peu la moindre des choses.
26 janvier 2017.
Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen.
1er mars 2017.
Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas.
En ce début mars 2017, François Fillon pressent qu'il va être mis en examen. Cette mise en examen est prononcée le 14 mars, quelques jours plus tard, pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, et manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
j'irai jusqu'au bout, parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée.
Donc il décide de tenir contre vents et marées, tout seul, comme ça, d'emmener tout le monde avec lui, de couler le bateau de la campagne, au lieu de se retirer.
Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Un journal entièrement consacré au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron finit en tête devant Marine Le Pen. Le candidat En Marche est donc idéalement placé pour l'emporter le 7 mai prochain. Il bénéficie du soutien de François Hollande et de celui plus discret des Républicains, tétanisé par l'échec de François Fillon.
Que ça ait pesé sur la présidentielle, c'est évident, mais c'était pas ni prémédité, ni voulu. Voilà, on fait une enquête, comme on le fait sur tous les candidats. On trouve des choses, on les raconte. Après, on ne maîtrise pas les conséquences du tout. Voilà, par exemple, quand on a sorti le premier papier sur la société de conseil, on aurait pu imaginer que ça fasse un petit scandale, que tout à coup, les candidats s'en emparent, demandent des explications à François Fillon, ce soupçon de conflit d'intérêts qui entache la campagne de façon permanente. Bon, ça n'avait pas été tellement le cas. C'est plutôt durant l'affaire où il a dû s'expliquer, tout à coup, il a révélé que... AXA, par exemple, avait payé 200 000 euros pour ses conseils, sachant que AXA est le leader de l'assurance privée de santé en France et que François Fillon, dans son programme, avait décidé de privatiser largement la Sécu. C'était un conflit d'intérêts majeur, c'est plus que ça. Voilà. Rien que ça, ça aurait pu suffire à complètement plomber sa campagne. Et effectivement, l'histoire de l'emploi de Pénélope, il fait scandale parce que le hiatus est trop grand entre ses déclarations, son image et ce qu'on découvre en réalité. C'est pas tenable.
On est à la fois un journal d'enquête, d'investigation, mais en même temps, on essaye pas de prendre les choses au tragique. On n'est pas dans un journal de dénonciation. On est dans un journal qui essaye aussi de se marrer avec ces trucs-là. Parce que, comme disait notre bien-aimé fondateur, Boris Maréchal disait qu'il valait mieux, effectivement, rigoler des choses qu'en pleurer. On fait pas la morale, on n'est pas procureur, on dit pas il faut que les gens se comportent comme ci, comme ça, etc. Simplement, quand vous avez un homme politique qui dit qu'un homme politique doit être irréprochable, etc., et qui fait tout ce qu'il a fait, c'est difficile quand même de faire comme si on voyait rien, quand même.
Mise en examen, et depuis que Fillon l'a dit, tous veulent lui couper la tête. Assassinat politique, complot nauséabond, guillotine à live, BFM TV, Yako.
Bon, il y a eu aussi l'histoire des costumes, ce qui n'a pas été sorti par nous, mais je veux dire, c'était quand même, ça montre aussi un peu la maladresse de, vous avez quelqu'un qui se faisait offrir non seulement ses vacances, qui prenait l'argent à l'Assemblée, qui en prenait au Sénat, et qui, en plus, se faisait offrir des costumes à Arnis par l'avocat Bourgi. Et le gag, ça c'est nous qui l'avons sorti, c'est que ces costumes, il avait dit qu'il les avait rendus. Il avait rendu deux costumes et un blazer, Mais apparemment, dans les costumes qu'il avait rendus, c'était surtout les costumes usés. Parce que 8 jours ou 15 jours après avoir rendu ses costumes, il apparaît dans un meeting, prend la parole et il y a la veste qui n'est pas boutonnée, donc on peut voir le revers et on voit l'étiquette Arnis. Et effectivement, la description correspondait à un de ses costumes Arnis. Donc si on ne s'amuse pas avec ça, on s'amuse avec rien. Ce n'est plus un journal satirique.
Se prévaloir, François Fillon, d'avoir contribué à créer une nouvelle loi de moralisation, de même que Cahuzac avait, lui tout seul, réussi à créer une loi de moralisation. Donc à chaque affaire, sa loi de moralisation. Parce que, en fait, sans l'affaire Cahuzac, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'affaire Fillon. Parce que sans l'affaire Cahuzac, il n'y avait pas de création de haute autorité de la vie publique. Donc, il n'y avait pas de publication de déclaration d'intérêt. Donc, il n'y avait pas le premier fil qui était l'emploi de Madame Fillon à la Revue des Deux Mondes. Depuis l'affaire Fillon, il y a eu une nouvelle loi de moralisation de la vie publique. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle nous permettrait de découvrir grand-chose, parce que cette loi interdit les emplois des conjoints, et elle ne donne pas énormément plus d'obligations de transparence.
15 septembre 2017, Emmanuel Macron signe deux nouveaux textes de loi de moralisation de la vie politique.
Ces deux lois, ce sont des engagements de campagne importants qui constituent une vraie rénovation de notre vie politique. L'impossibilité d'embaucher un membre de sa famille est ainsi maintenant promulguée. L'impossibilité d'être élu quand on a un casier judiciaire B2 est promulguée, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit ou peuvent encore croire. Et l'impossibilité de ne pas rendre compte de ses indemnités est aujourd'hui promulguée.
Elle interdit aussi aux parlementaires d'être consultants s'ils n'ont pas exercé cette activité pendant au moins 12 mois. Voilà, pour éviter que des petits malins refassent ce que François Fillon avait fait, c'est-à-dire créer leur boîte de conseil la veille de leur élection, pour ainsi dire. Voilà, là, il faut qu'ils aient vraiment eu un vrai métier de consultant et une vraie carrière pour justifier d'être encore consultant quand ils deviennent députés.
Le 27 février 2020.
Le procès du couple Fillon commence pour de bon cet après-midi avec d'abord des points de procédure. C'est l'affaire des emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon.
On assistait au procès que pour le relater, pas pour s'en délecter particulièrement. On voulait absolument voir comment François Fillon allait se défendre et Pénélope Fillon. Je me souviens qu'un des soirs du procès, quand j'ai pris le métro, il y avait Marc Joulot à côté de moi. Marc Joulot, qui est donc suppléant de François Fillon, qui lui-même a employé Pénélope quand François Fillon est redevenu ministre. Et donc Marc Joulot était également poursuivi, il a été condamné pour avoir employé Pénélope pour un emploi fictif. Et donc, contrairement à François Fillon, qui repartait tous les soirs avec Pénélope, avec une espèce de petite escorte de son avocat, voire de sa famille, parfois ses enfants étaient là, Marc Joulot lui repartait tout seul, pas avec une voiture qui l'attendait. Donc voilà, un soir, en sortant du procès, je me retrouve avec Marc Joulot à côté de moi et je ne suis pas allée lui parler. Je trouvais que ce serait peut-être assez provoquant encore une fois. On ne tire pas sur l'ambulance au canard, je veux dire, voilà. Ils sont au procès, voilà, il y a eu tout ce qui s'est passé. On ne va pas en plus aller leur tendre un petit micro pour dire « Bon alors, comment ça va? Pas trop dur le procès ?» Je pense que là, il serait quand même très très énervés, ils auraient raison, et en plus ça ne porterait absolument rien au canard, c'est pas tout à fait ce qu'on écrit, voilà, j'ai pas besoin d'avoir une réaction en direct de Marc Joulot sur son procès. Et François Fillon a été fidèle à lui-même, encore une fois il nous a un peu aidés, parce que si le personnage avait été complètement accablé, bon, bah voilà, on ne peut pas vraiment en rajouter. Là, en l'occurrence, François Fillon, pendant tout le procès, a gardé une certaine morgue. Il n'y a pas du tout de contrition, vous voyez. Il était très, très agacé par les questions des procureurs, avec la juge un peu moins, parce qu'elle était beaucoup plus factuelle. Mais on sentait que, vraiment, lui poser toutes ces questions, c'était complètement déplacé, que s'il avait voulu payer Pénélope à coller des gommettes, tel était son bon vouloir, comme s'il n'était pas comptable des données publiques utilisées. Vous voyez, il est resté sur cette ligne, à mon avis, qui a pesé lourd dans sa condamnation.
Trois ans après les révélations du Canard enchaîné, la justice se prononce enfin sur l'affaire qui a empoisonné sa campagne présidentielle.
BFM TV, 29 juin 2020.
François Fillon et son épouse Pénélope sont apparus, le visage masqué en raison de l'épidémie de Covid. À la sortie, le pas est rapide. La sentence est lourde. Ils sont condamnés pour détournement de fonds publics, complicité et recel. Des peines conformes aux réquisitions du parquet. 5 ans de prison, dont 2 fermes pour l'ex-premier ministre et 375 000 euros d'amende. 3 ans de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende pour Pénélope Fillon. 3 ans de prison avec sursis également pour le suppléant Marc Joulot, 20 000 euros d'amende.
Le fait qu'il n'y ait aucune remise en question de son comportement, ça a pesé forcément dans la décision du juge de le condamner à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, donc 2 fermes, en première instance en tout cas.
Le procès, c'était intéressant de le suivre pour voir un peu, on est journaliste, donc voir un peu comment il se défendait, comment les choses se racontaient. Mais pour nous, c'est pas, voilà, on n'est pas la question de sa condamnation ou non-condamnation, on n'est pas des juges, on est un journal satirique, donc on s'est bien amusé à sortir cette affaire, en étant toujours très rigoureux sur les informations qu'on sortait. On fait des articles, on noircit du papier, voilà.
Mécanique du journalisme, Thomas Duterre, Élise Carlin, mixage, Ludovic Auger et Nasser Moussaoui.
J'ai dit à mes enfants, mes bébés éléphants, regardez l'homme blanc, ça c'est un président, c'est celui qui sourit et qui tient un fusil. Dirige un pays où il n'y a pas d'éléphants. Qu'est-ce qu'ils ont donc là-bas? Ils ont pas d'éléphants, mais ils ont des moutons, des troupeaux de moutons, et puis un président. Qu'est-ce qu'ils font ces moutons? Ils ont jamais le temps. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il vient pour tuer le temps. Est-ce qu'il a des enfants, ce monsieur président? M'ont demandé mes enfants en langage éléphant. Oui, bien sûr, il en a, et quand ils seront grands, ils iront à l'ENA, ils seront présidents. Où est-ce que c'est l'ENA? Où est-ce que c'est l'ENA? Est-ce que c'est loin d'ici? Est-ce que c'est au Kenya? Mais non, c'est à Paris. Et Paris, où est-ce que c'est? C'est derrière la prairie. Bon, maintenant ça suffit, ils commencent à tirer. Ils ont eu le vieux Paul qui pouvait plus courir, Morissette et Fredo qui se grattaient le dos. Ils étaient sans défense, je dis pas ça pour rire. Ça aurait pu être pire, on a eu de la chance. Qu'est-ce qu'ils ont donc là-bas? Nous on vit bien au chaud, au fin fond de la brousse. On se pousse au bord de l'eau, et là on s'éclabousse. On fait partir les mouches qui sont dans nos oreilles. Après on prend des douches, à poil sous le soleil. On n'est pas bien sauvage, juste un peu corpulent. L'œil tout rond pas méchant, plutôt dans les nuages. On voyage à pas lent, c'est pour ça qu'on est sage. On vient du fond des âges, d'avant les présidents. Où est-ce que c'est l'ENA?